Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'Agité du local, votre émission autour de l'actualité mayonnaise pour une nouvelle semaine d'émission. Nous sommes aujourd'hui le lundi 4 avril et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission, toujours en compagnie d'Andy. Salut Andy.
Salut Marie, comment ça va?
Oula, ça va. Je me disais petite voix pour un lundi, mais c'est pas grave, on va y aller tranquillement, ça va aussi en tout cas, puisqu'on va parler aujourd'hui, on va revenir en fait d'ailleurs sur les animations qui ont été organisées à l'école du Petit Prince à Laval vendredi à l'occasion de la journée mondiale de l'autisme samedi 2 avril, donc le lendemain, puisque cette école accueille justement une unité d'enseignement maternel autisme. On va voir justement comment ça se passe au quotidien. Et puis on va aussi parler d'un spectacle, Mon père est une chanson de variété, spectacle au titre interrogateur, mais qui s'explique très bien, vous allez l'entendre, avec son metteur en scène et auteur Robert Sandeau, que nous avons joint en Suisse. Et puis on va aussi entendre un coup de cœur littérature proposé par Christophe de Emlier-Anjou, qui nous parle aujourd'hui, qui nous donne donc un coup de cœur en littérature adulte. Mais on va d'abord, comme vous le savez, comme d'habitude, faire un petit point sur l'actualité avec toi Andy. Et ce matin, deux poids lourds sont entrés en collision à la chapelle Rinsoin.
Vers 8h30 sur la D20, un des conducteurs âgé de 55 ans était lourdement blessé, tandis que l'autre de 19 l'a été légèrement. Les deux victimes ont été transportées à l'hôpital de Laval. Une vingtaine de sapeurs-pompiers étaient mobilisés pour dégager la route et une déviation a été mise en place via la RD24 et la RD57.
Un cycliste héliporté après une chute de vélo.
L'accident s'est produit hier en fin de matinée vers 11h30 à Saint-Mars-du-Désert dans le nord-est de la Mayenne. Un cycliste de 55 ans roulait sur la départementale 205 lorsqu'il a fait une lourde chute. Il se trouvait en état d'urgence absolue lorsqu'il était transporté par hélicoptère au CHU d'Angers.
Une aide pour les parents d'élèves ukrainiens.
Proposé par la direction académique en Mayenne, un professeur bilingue français-ukrainien sera disponible à la cité administrative à Laval tous les après-midi de la semaine prochaine, de 14h à 16h, et du mardi 19 au vendredi 22 avril aux mêmes horaires, en soutien à l'acquisition de la langue française et pour mieux comprendre l'organisation du système éducatif français.
Et puis face à la hausse des contaminations à la Covid, les dépistages se poursuivent en Mayenne.
Notamment avec des tests antigéniques proposés sans rendez-vous aujourd'hui à Ernée et à Argentré, demain à Château-Gontier sur Mayenne et mercredi et vendredi au Palindrome à Laval.
Laval d'ailleurs, où on va parler basket puisque les Lavallois se sont imposés ce samedi.
En l'emportant 88 à 81 contre Montgaillard lors d'un match compliqué face à des adversaires pourtant diminués. En revanche, c'est une défaite pour l'étoile lavalloise futsal qui s'est inclinée de justesse vendredi soir à Toulon, 4 sur le score de 4 à 3, après avoir mené 3-2 pendant la partie.
Et puis en football, le Stade Lavallois rencontre Sedan ce soir.
À 18h45 au Stade Francis Lebasserre à Laval, en cas de victoire, les Tangos reprendraient 5 points d'avance sur leur dauphin Annecy et 8 sur le 3e Concarneau.
On reste à Laval où les animations autour du 18e siècle ont été suivies par 4300 visiteurs.
Succès surprise des animations organisées ce samedi au Jardin de la Périne et dimanche au Manoir de Rouessé par le service patrimoine de la ville de Laval. C'est le campement militaire installé au Manoir de Rouessé qui a attiré le plus de monde pour la première édition de l'événement.
Et puis, on vous propose de vous mettre tous en bleu, puisque c'était le mot d'ordre vendredi dans l'école maternelle du Petit Prince à Laval, à la veille de la journée mondiale de l'autisme le 2 avril. L'école accueille 7 enfants avec des troubles autistiques dans une unité d'enseignement maternel dédiée, avec 7 adultes intervenants, une enseignante, 2 AESH, mais aussi du personnel de l'association ADPI 53, une aide médico-psychologique, une éducatrice de jeunes enfants, une psychologue, une éducatrice spécialisée et une psychomotricienne. Objectif, favoriser l'inclusion et la tolérance. Message reçu à 100% par cette jeune élève qui savait très bien ce qui se passait vendredi.
Parce que c'est la journée de l'autisme, on a décoré les arbres tout bleus. Avec la craie, on a fait des cœurs en bleu. Et tout à l'heure, on va chanter une baleine bleue. Et avec des parents, il a Bonfa, il a Mohamed, il a Enzo Rim. En fait, ils ont une classe que à eux et nous, on a une classe que à eux. On peut leur raconter des comptines, on les aide. Quand il a un vélo qui est coincé, je les aide à les décoincer. Parce qu'il faut commencer déjà par les choses simples.
Je m'appelle Catel, je suis enseignante à l'école du Petit Prince en classe de toute petite section et moyenne section. Donc c'est une classe de 7 enfants autistes âgés de 3 à 6 ans, donc d'âge maternel. Il y a vraiment un travail très riche dans le sens où on a à la fois des élèves qui sont en inclusion, donc en temps partagé au sein de nos classes, mais aussi de nos élèves qui relèvent du milieu ordinaire, qui sortent de la classe et qui vont accompagner ces enfants sur des temps, aussi bien sur des temps de motricité ou des temps de jeux de société. Moi, en ce qui me concerne, j'en ai 3 qui sont d'âge de moyenne section, donc qui sont très régulièrement en inclusion sur ma classe. Et il y a même une belle réussite cette année, parce qu'on a une petite fille qui, depuis la rentrée de février, est en inclusion à temps plein, pratiquement sur la classe, dans le niveau de moyenne section. Ce qui va permettre pour cette petite fille de pouvoir réintégrer le milieu ordinaire à la rentrée prochaine, en grande section de maternelle. Avec un accompagnement, ce qu'on appelle les accompagnants élèves de situation de handicap, les AESH. Ce qu'on voit aussi, c'est que le fait d'avoir ce dispositif qui relève d'un partenariat entre la DAPEI et l'Éducation nationale, c'est qu'on a cet avantage de pouvoir avoir un regard aussi plus précis, plus expert avec différents partenaires, des éducatrices spécialisées, des éducatrices jeunes enfants, des psychomotriciennes. On profite de plusieurs compétences au service de la réussite des enfants.
Et c'est cette unité d'enseignement autisme est aussi ouverte depuis le mois de septembre à Laval, dans une autre école, l'école de la Senelle, là aussi une école maternelle.
Et on va passer à l'interview du jour, mais juste avant, pause musicale avec Technicolor Live de Kokomo. We'll be right back.
C'était Kokomo, Technicolor Life, c'est ce qu'on vient d'entendre dans l'agité du local. Vous êtes bien à l'écoute de l'autre radio. Et on va passer à l'interview avec ce spectacle programmé demain soir avec l'Entracte à Sablé-sur-Sarthe qui a pour titre « Mon père est une chanson de variété ». Il retrace les questionnements d'un enfant qui a grandi sans père mais accompagné des grands chanteurs de variété de son époque, sortent chacun de père de substitution à leur manière. Un spectacle dynamique, joyeux, drôle mais aussi parfois touchant et émouvant, comme l'explique Robert Sandeau, le metteur en scène et auteur de cette pièce. Nous l'avons joint à bord d'un train en Suisse qui peut expliquer les quelques petits bruits de fond lors de l'interview.
Je m'appelle Robert Sandeau, j'ai 47 ans, je suis metteur en scène suisse et le metteur en scène et l'auteur de Mon père est une chanson de variété. L'outil de la ressemblance, c'est le nom de ma compagnie avec laquelle je travaille depuis des années. L'idée, c'est que moi, je suis un fils d'ouvrier, donc je vois bien ce qu'il est d'outil. Imaginez le théâtre comme un outil. Puis un outil qui sert à quoi ? Ben, qui sert à dire aux gens que très certainement, sous tout ce qui nous oppose, des fois en surface, on se ressemble dans le fond.
Comme vous disiez, vous avez écrit ce spectacle, mis en scène aussi, ce spectacle qui sera donc proposé mardi à 20h30 à Sablé-sur-Sarthe. Un spectacle très personnel, vous parlez de bio-fiction, c'est ça ?
Oui, ben, y a le côté bio, parce qu'effectivement, moi je n'ai pas connu qui est mon père, je suis très inconnu, donc je raconte un peu cette histoire-là dans le spectacle, mais en même temps fiction. Parce que j'invente pas mal. Le spectacle commence par moi-même qui dit « Je m'appelle Robert Sandeau et je suis un menteur ». Parce que tout au long de ma jeunesse, j'ai eu plusieurs versions, ce qui était espère, donc plusieurs vérités. Et on va dire que j'ai un rapport comme peut-être tout auteur, tout acteur, un rapport un petit peu romancé à la réalité. Et donc, dans ce spectacle, il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup d'inventions, beaucoup de choses qui permettent aussi à cette bio d'être très populaire et très accessible à tous. Je voulais pas faire un spectacle centré sur moi. Je n'ai pas cette prétention. Alors, il y avait besoin de mettre des chansons de variété, des portes d'accès universelles pour que tout le monde puisse entrer dans ce spectacle.
Peut-être qu'effectivement, on peut dire tout simplement l'histoire de ce spectacle. Donc, même si le titre est déjà assez évocateur, « Mon père est une chanson de variété ».
Robert, qui a grandi sans savoir qui est son père et qui a été mené en bateau avec plusieurs versions différentes par sa mère sur ce qui s'est passé. Et puis, parallèlement à ça, ben, comme il ne connaissait pas son père, eh ben, il a écouté la radio énormément, puis il a été élevé par les chansons de variété. C'est-à-dire qu'il a appris à draguer avec Jean-Jacques Goldman, il a appris la philosophie de la vie avec Joe Dassin, il a appris l'humour, peut-être sans le faire exprès, avec Michel Sardou, qui l'a beaucoup fait rire. Non, mais je ne sais pas comment dire, il y a Claude François, il y a tout ça qui sont devenus comme des pères de substitution. Et donc, c'est à la fois comme un grand karaoké, parce que les gens, depuis leur siège, sont invités à chanter avec nous parce qu'on diffuse les paroles. Et puis on fait le grand écart, quoi, le grand écart entre la chanson de variété, un côté populaire, un côté drôle, puis un côté, je dirais, tendre, parce que cette histoire entre Robert et sa maman, elle est touchante, j'espère.
Le lien entre la variété, les chansons de variété et une histoire plus personnelle, il s'est fait très spontanément pour vous ?
Non, pas du tout. Moi, j'ai pas été traumatisé de ne pas connaître mon père. C'est vraiment une question qui est venue sur le tapis quand ma fille, à moi, a commencé à me poser des questions sur pourquoi je n'avais pas de père. Et quand je lui ai dit, tu sais, mais on peut grandir sans père, pas de souci, c'est pas un problème. Elle n'a pas compris, quoi. Elle s'est dit, mais il est fou. Mon père me dit qu'il sert à rien. Et donc, il y avait ça qui était dans l'air du temps, ce rapport au fait que j'ai pas de père. Et puis, j'ai mélangé ça avec ma passion pour la variétologie, pour les chansons de variété. Moi, j'adore écouter ses textes, dire, mais de quoi parle Claude François, de quoi. Et puis, la musique entraînante, populaire. Moi, je pense que tous, on a un rapport à ces chansons de variété. On a la chanson qu'on aimerait diffuser à son enterrement. On a une chanson qu'on écoutait quand on était petit qui nous a marqué. Il y a une chanson de notre mariage. On a des souvenirs émotionnels avec la chanson de variété.
Et aussi, comme vous disiez, il y a vraiment aussi cette notion, alors qu'on peut retrouver dans d'autres genres musicaux, évidemment, mais de texte et d'universalité qui parle à tout le monde.
C'est ça. Une chanson de variété, c'est de dire en 3 minutes ce que des gens n'arrivent pas à dire toute leur vie, en fait. Toute leur vie, à dire « je t'aime » ou dire « je tiens à toi » ou « tu m'as blessé ». Donc, c'est un condensé de vie, c'est accessible à tous. Une chanson de variété, tout le monde en comprend les paroles très, très facilement. Et je pense que c'est un grand art et puis que c'est un art aussi très français. Je pense qu'il n'y a que la France qui a inventé des musiques très chatoyantes, très dansantes pour y mettre des textes très tristes dessus. Claude François, c'est incroyable. Tous les textes de Claude François sont très déprimants, avec une musique hyper chatoyante. À l'heure actuelle, Stromae, finalement, c'est un peu la même recette. Donc c'est intéressant, c'est ce style français du sujet sérieux résumé en 2 minutes sur une musique pour danser.
Est-ce que c'est vraiment à l'image du spectacle ? C'est-à-dire que ça va être, il y a pas mal de musique, ça va être assez joyeux, mais aussi avec des thèmes peut-être plus sombres abordés ?
C'est un spectacle qui est très dynamique parce qu'il y a il y a du chant, il y a de la musique. Je suis avec Adrien Guigac sur le plateau qui lui apporte vraiment un côté d'humour, de rythme. Puis c'est effectivement comme ça, parsemé de petits moments plus tendres, plus touchants, puis qui nous amènent jusqu'à un paroxysme, parce que finalement un spectacle sur mon père absent, ben, c'est un spectacle sur ma maman. Et donc sur comment avec ma maman on a géré ou pas géré, puis quelle est ma relation. Donc c'est vraiment un spectacle sur la famille, sur la lien de filiation. Il n'y a pas besoin de ne pas connaître son père pour venir voir le spectacle.
Vous disiez être deux sur scène, l'autre personnage qui est-il ?
Alors, l'autre personne sur scène, c'est Adrien Guigax, c'est un complice dans la vraie vie depuis très longtemps, quelqu'un qui m'aide à écrire tous mes spectacles. Mais sur le plateau, ben, c'est un fan de Claude François, qui veut absolument m'aider à raconter mon histoire, puis qui lui veut que ça soit entraînant, quoi. Il veut pas que le public s'ennuie. Donc chaque fois que je suis un petit peu trop tendre, chaque fois que je m'apitoie sur moi-même, il intervient. Et ça, c'est pas mal, parce que ça évite que ce soit un thème aussi personnel, le projet devienne condescendant.
Donc il y a vraiment effectivement ces deux personnages sur scène. Ce spectacle-là, est-ce qu'il a déjà, j'imagine, un petit peu tourné ? Quelles sont les réactions du public en général à l'issue ?
Alors il y a une partie du public qui est la grande majorité, qui est toujours surpris parce qu'il se laisse prendre par le côté émouvant de ces chansons de variété sans s'en rendre compte, par la mécanique du spectacle, et puis qui a passé un immense moment de rire, de partage. Souvent, on nous dit que pour relancer le théâtre après le Covid, c'est un excellent spectacle parce qu'on s'adresse à eux. Il y a une espèce de symbiose avec la salle. Il y a des retrouvailles aussi avec ces vieilles chansons. Il y a une petite partie qui vient des fois me trouver en disant ben, c'est vrai que moi aussi, j'ai eu du secret de famille. C'est vrai que moi aussi, ma relation avec ma mère n'a pas été facile, ou ma relation avec mon père. Et puis je suis très surpris de ça. Parce que moi, je voyais plutôt la portée générale de ce spectacle. Et j'ai pas senti que finalement on était peut-être aussi tellement nombreux à se poser ces questions-là.
Justement, ce sera l'occasion d'avoir peut-être aussi d'autres retours dans le même style ou pas, puisqu'il y a un bord de plateau qui est organisé après la représentation. Vous avez l'habitude de ça ?
Oui, on a l'habitude, mais je dois vous dire, c'est quelque chose que moi j'adore énormément.
Pourquoi ? Pour vraiment avoir les réactions à chaud, les échanges, expliquer peut-être aussi des choses dans le spectacle ?
Complètement. Ben, expliquer des choses dans le spectacle, j'espère pas trop, parce que j'espère que le spectacle est compréhensible sans avoir besoin d'abord de scène après. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont furieux, de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, comment est-ce qu'on écrit une histoire pareille, comment on prend tellement de distance avec sa vie, comment on a choisi les chansons. Il y en a qui se plaignent, qui disent qu'il n'y a pas Paul Naref. Ben voilà, donc il y a vraiment de tout. Mais là, il y a quelque chose de spécial, en fait, parce que ce spectacle, c'est pas toujours moi qui joue mon propre rôle. Et typiquement, à cette représentation-là, ce sera Pascal Schopfer qui joue mon rôle. Ce qui amène une dimension supplémentaire parce qu'il commence le spectacle en disant bonjour, je m'appelle Robert Sandeau et je suis un menteur. Et il y a que moi qui le sais parce que bien sûr personne ne me connaît dans la région, mais moi je sais que c'est déjà un menteur. Déjà tout le monde dit mais je vous mène un peu en bateau, vous savez. Puis oui, il nous mène en bateau parce que c'est ben, comme toujours au théâtre, celui qui joue Hamlet n'est pas vraiment Hamlet, hein, c'est pas une surprise. Et donc je pense que ce port de scène sera très intéressant parce qu'il y aura en plus des discussions avec Pascal sur comment on joue une histoire vraie, sur comment on joue un documentaire, sur comment on interprète quelqu'un qu'on connaît, qui est vivant. Et ça, je pense que c'est des belles questions, des belles mises en abîme en perspective, quoi.
Ah oui, donc selon les dates, en fait, ça peut être l'un ou l'autre qui est sur scène ?
Exactement. Au début, à la création du spectacle, c'est moi qui jouais beaucoup. Puis après, on a tellement de succès, on joue tellement que ça devenait trop pour moi. Et puis, des directeurs de théâtre ont dit « Mais ce ne sera pas le même spectacle si ce n'est pas toi ». Alors déjà, il faut bien se mettre d'accord, hein, que s'il y a des acteurs qui arrivent à jouer Hamlet, ils vont réussir à jouer Robert Sandeau. Hein, je veux dire, c'est quand même moins complexe, ça va aller, c'est pas de Shakespeare. Quoi. Il y a vraiment, c'est possible. Et que je dirais même que le spectacle, il a gagné en densité, parce que, ben, je ne sais pas, moi j'étais à la fois au four et au moulin, c'est aussi un peu mon histoire. Donc je pense que Pascal, il y avait plus de finesse, plus de distance, plus de maîtrise. Et puis, comme tout comédien qui interprète un rôle, il conserve énormément d'émotions et cette capacité à faire rire. Donc c'est génial que Pascal... Imaginez la sensation que c'est pour moi de voir quelqu'un jouer mon rôle sur une scène. C'est quelque chose de très, très troublant et très gratifiant.
Plus globalement, c'est vrai qu'avoir un spectacle aussi personnel, je crois que c'est votre premier. Est-ce que c'est plus facile parce qu'on s'appuie sur des faits en tant que tels qu'on connaît très bien ? Ou est-ce qu'au contraire, ça peut être aussi plus difficile à gérer puisqu'il y a cette distance à prendre qui n'est pas toujours évidente ?
Ouais, ça fait effectivement 20 ans là, que je fais de la mise en scène. Et puis qu'au fil de ma carrière, je me rends compte que de plus en plus, j'écris des choses personnelles et je commence à écrire. Mais je ne me sens pas du tout auteur. Parce que moi, je ne sais pas comment on part d'une page blanche. Quoi. Moi, j'aime bien partir des contraintes. Et donc, tous les textes que j'ai écrits, souvent, pour l'instant, ont un personnage principal qui s'appelle Robert. comme moi. Et puis c'est transcendant, ça mène beaucoup plus loin, je romance, je rends beaucoup plus intéressant ma vie. Donc c'est vrai que je me sens pas créateur qui part de rien. Mais non, mais c'est chouette de partir de qui on est, de partir de ce qui nous arrive, parce que ça fait une bonne matière. Moi je pense que la vie est sublime, on oublie des fois de la regarder sous le bon angle, on oublie d'être surpris. Et ce travail-là de réenchanter la vie en la romançant, en la mettant sur scène et partager ça avec les gens, c'est un magnifique métier.
Vous disiez aussi que ce spectacle avait déjà pas mal tourné. Est-ce que vous êtes déjà venu dans l'ouest de la France ou pas du tout ?
Oui, oui, on est venu dans l'ouest de la France. On a pas mal fait de dates entre Nantes et la Normandie, en fait. On y revient encore à la fin du mois de mai. Donc, bah ouais, c'est une région qui a fortement bien accueilli ce spectacle. On a des très bons souvenirs dans plein de villages. Alors nous, on fait plutôt effectivement des villes et des villages que des grands centres urbains. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ben voilà, on a plus à ces théâtres-là, on a plus à ces réseaux-là, puis on est super heureux. Moi, je bosse ma géographie nord-ouest de la France, comme ça, c'est superbe.
Et donc, peut-être première fois en Sarthe, pour le coup ?
Ce n'est pas la première fois en Sarthe, ça j'en suis sûr. Je suis sûr qu'on est déjà venu en Sarthe. Maintenant, quel village on a fait qui était déjà en Sarthe ? Mais je relève volontiers le défi d'un quiz géographie France, géographie Suisse.
Alors, pas de quiz au programme demain, mais la représentation à 20h30 à l'espace Madeleine-Marie à Sablé-sur-Sarthe. Les places sont comprises entre 9 et 16 euros à réserver par téléphone au 02 43 62 22 22 ou bien par mail à billetterie@lentracte-sablé.fr.
Et tout de suite, la chronique Aime les Ranjoux, mais avant, on écoute City de Jane.
City de Jane dans l'agité du local sur l'autre radio. C'est l'heure de passer au coup de cœur de Christophe, libraire chez M. Nérangeau à Château-Gontier. On part aujourd'hui dans les coulisses de la grande cuisine et de la gastronomie.
M. Nérangeau à Château-Gontier vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Voilà un sujet qui est rarement abordé dans la littérature. Il s'agit d'un roman, il s'intitule « Chef ». C'est le nouveau roman de Gauthier Battistella aux éditions Grasset. Alors, Gauthier Battistella, petite présentation, 15 ans d'expérience en tant que journaliste au Guide Michelin. Donc visiblement, c'est quelqu'un qui connaît très bien les bonnes tables de France, qui connaît très bien le milieu de la gastronomie, de l'excellence. Et c'est avec ses connaissances, avec son passé, qu'il va nous raconter l'histoire fictive, mais presque réelle, d'un chef qui s'appelle Paul Renoir. Paul Renoir, on va le suivre dès son enfance, dans les années 60-70, où il va connaître une véritable révélation en poussant les portes du restaurant La Tour d'Argent à Paris. Et là, il est môme, il sait que sa vie va être liée à la cuisine et qu'il va y consacrer toute son énergie, toute sa vie pour créer, pour inventer, pour faire plaisir et pour donner. Et voilà, c'est le parcours de chef, c'est le parcours de Paul Renoir. Alors, c'est un parcours fait d'une ascension, mais aussi d'une chute, parce que ce milieu est dur, il est terrible, il est broyant. C'est un livre qui est entre le roman et le documentaire. J'ai adoré l'écriture de Battistella, qui est une écriture inventive, qui met du goût dans ses phrases, qui met des saveurs. J'ai vraiment adoré la poésie de son écriture pour un texte qui est fort, qui m'a touché, qui m'a fait découvrir aussi ce milieu impitoyable. Découvrez-le dans le roman « Chef » de Gauthier Battistella aux éditions Grasset.
Retrouvez M. Lire en joue, 10 places Paul Doumer, à Château-Gontier, ou et sur l'autre radio.
Et quand pourrait-on aussi se demander ? Eh bien demain, une prochaine chronique inédite, ce sera à 7h30 pour les plus matinaux, et puis pour les autres, elles sont toujours disponibles en podcast sur l'autreradio.fr. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce lundi. Merci Andy, à demain.
Salut Marie, à demain.
On se retrouve demain évidemment, mais avant, restez avec nous puisqu'à 19h, il y aura Solénoïde. Ce sera suivi à 20h de la discothèque de notre programmateur et à 21h de l'aléatoire. Nous, on se retrouve demain à 12h15. Je vous souhaite une très belle journée.